BFM Business et La Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, il est 9h passé de 32 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business et les experts. On est ensemble pour une heure de débat et de controverse. Avec cette question ce matin, l'économie française est-elle en train de caler ? C'est désormais la crainte affichée par le président du MEDEF, Patrick Martin, qui redoute une entrée en récession après un deuxième trimestre particulièrement chahuté, évidemment, par les tensions au Moyen-Orient. Consommation en panne, inflation qui repart, défaillance d'entreprise au plus haut. Faut-il se préparer à un sérieux coup de froid sur l'économie française? Ce sera le premier débat. Ou alors passe-t-on en réalité à côté d'une partie de la réalité, puisque la croissance moins spectaculaire mais plus solide, et peut-être moins spectaculaire mais plus solide qu'on le croit. On va voir aussi, ça c'est la révision de l'INSEE de la semaine dernière. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, la machine économique montre aussi quelques signes d'affaiblissement. La guerre commerciale de Donald Trump repart de plus belle. Les droits de douane deviennent un instrument géopolitique assumé et l'Europe s'interroge. Faut-il encore jouer les champions du libre-échange quand ses propres industriels regardent vers la Chine? Récession, commerce mondial, protectionnisme et compétitivité. Jusqu'où l'économie mondiale peut-elle encaisser les chocs? C'est le débat des experts ce matin. Il est 9h passé de 33 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business. Allez, c'est parti. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Janson sur le plateau. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël.
Professeur d'économie à Neoma Business School. À vos côtés, Olivier Provost. Bonjour Olivier.
Bonjour Raphaël.
Directeur et associé de Rumeurs Publiques et Philippe Trénard. Bonjour Philippe.
Bonjour Raphaël.
Professeur honoraire au CNAM, membre du Cercle des économistes. Je vais commencer avec professeur Trénard. La France se dirige-t-elle vers une récession? C'est la crainte. Aujourd'hui, c'est hier Patrick Martin, le président du MEDEF, qui tirait la sonnette d'alarme après la contraction de l'économie au premier trimestre. On pensait que la croissance était de zéro au premier trimestre. L'INSEE a révisé, c'est -0,1. Alors, on est dans l'épaisseur du trait, bien sûr. Mais quand même, les différents indicateurs macroéconomiques qu'on a depuis pour le deuxième trimestre ne sont pas très réjouissants.
Non, les indicateurs économiques ne sont pas réjouissants. Les prévisions que nous avons sur la table, prenons celles du consensus, prenons celles du FMI, prenons celles de la Commission européenne.
Et de l'OCDE ce matin même.
Oui, et l'OCDE ce matin, mais là nous verrons ce qu'ils disent plus précisément, sont des prévisions qui restent entre guillemets optimistes, parce qu'elles ne sont pas optimistes, mais elles sont optimistes au sens où elles sont au-dessus de zéro, elles sont pas au niveau de la stagnation. Oui. Maintenant, si je regarde ce que les statisticiens appellent la marge de confiance, ben la marge de confiance, elle couvre largement le 0% et la stagnation. C'est-à-dire le risque de stagnation, voire même de récession, n'est pas négligeable du tout. Et le problème, c'est que chaque jour...
Non, Philippe, parce qu'on est... Oui. Ce scénario de stagflation, on en parle depuis plusieurs semaines, depuis que le conflit au Moyen-Orient est plutôt absolument à moyen et long terme dorénavant. C'est un risque qui est en train de se concrétiser de plus en plus, Olivier Provost.
Oui, d'autant qu'on était toujours dans le mythe de l'économie à édredon pour la France. C'est-à-dire, globalement, une économie qui ne montait jamais très haut, mais qui descendait jamais très bas.
On nous protège. C'est ce que dit Xavier Muscat, l'ancien secrétaire général de l'Élysée.
Sauf que là...
On est protégé de tous les chocs.
Oui, enfin, là, honnêtement, si on sort en année blanche, si on sort à zéro, épaisseur du trait, circa 0,5 ou 0,2, oui. Honnêtement, tous les acteurs, entreprises et encore plus consommateurs vont directement en subir les conséquences. Et donc là, fondamentalement, si derrière, on est en train de basculer en récession, le mythe de l'économie française édredon, on aura pris un petit coup sur la tête.
Oui. On a un acquis de croissance de 0,4 cette année. C'est pour ça que Philippe disait qu'on sera peut-être pas dans le négatif, mais ce 0,4, on le tire de l'année dernière, de l'année passée, 2025. Ça veut dire que pour fin 2026 et puis surtout 2027, année présidentielle, Nathalie Janson, on risque d'être dans une économie à l'arrêt.
Oui, c'est ce qui nous menace effectivement fortement. De toute façon, on voit bien que là, les deux dernières années, enfin les deux derniers budgets, on a bien vu qu'ils se sont faits dans des conditions assez compliquées et qu'en fait, il n'en sort rien. Donc, comme on a un statu quo, que rien ne bouge, exactement, à part des hausses d'impôts qui ne favorisent pas notre modèle, en fait, là, on se retrouve acculé parce qu'on a accumulé tellement en fait, de contrôles, des réglementations qu'on a absorbées à chaque fois fois par des déficits publics, que là, on se retrouve un peu dans nos buts, c'est-à-dire qu'on est dans une économie qui s'étouffe au fur et à mesure. Enfin, donc, on est presque...
grenouille dans la cocotte, quoi.
On est dans la stratégie. On ressemble au Japon de ce point de vue-là. En fait, on est dans une économie qui étouffe et qui fait écho à la zombification, à tout ce que vous voulez, mais cette espèce d'économie qui est toujours là. Il y a toujours le cœur qui bat, mais en fait, il bat de moins en moins vite parce qu'en fait, il est étouffé. Tout
alors, on va voir, parce qu'on a quand même sérieusement revu les chiffres de la croissance 2023-2024. Oui. On va y venir. Philippe, vous souhaitiez réagir?
Oui, parce qu'il y avait une dynamique et la plupart des institutions et des prévisionnistes prévoyaient une poursuite de la croissance au-dessus de zéro.
Bah oui.
Pour quelle raison? Il suffit de voir les hypothèses du FMI, elles sont les plus intéressantes, parce que là, elles ont été mises par écrit, l'OCDE, nous ne savons pas quelles seront encore ces hypothèses, c'est que la guerre en Iran se termine en juillet. En juillet.
Ouais, là on n'y est pas. Hein.
Alors, bien évidemment, honnêtement, aujourd'hui, on n'y est pas. Et ce qu'on voit, c'est que progressivement, à reculons, pas du tout en allant de l'avant, mais à reculons, tout le monde révise ses hypothèses, y compris les marchés financiers, en disant « c'est pas pour juillet, c'est peut-être pour septembre, et puis si ça commence à être pour décembre, très honnêtement, ça va changer tout. »
Il y a des mid-termes qui arrivent quand même, on se dit
que surtout, ça change les anticipations. C'est-à-dire vous n'avez pas les mêmes décisions d'investissement si la guerre se termine en juillet, ou elle se termine pour la présidentielle américaine. C'est l'autre option.
Oui, bien malin, qui pourra le prévoir? Olivier Provost.
L'année de tous les dangers pour moi, c'est 2027. 2026, j'ai envie de dire, c'est presque joué maintenant. On sait que de toute façon, on sera dans l'épaisseur du trait, et effectivement, Philippe a raison de le souligner, il y a de toute façon cet inconnu du Moyen-Orient, mais globalement, personne aujourd'hui ne voit une sortie de crise rapide. L'année 2026, malheureusement, elle est jouée, et elle terminera peu ou prou entre 0,05. L'année de tous les dangers, c'est 2027. Parce que 2027, Raphaël, si on prend les hypothèses, s'il y a un arrêt total des investissements et un vrai arrêt de la consommation, là, c'est pas le zéro qu'on vise, c'est une baisse. C'est-à-dire que fondamentalement, notre moteur qui tourne, comme le disait Nathalie, le moteur, il ralentit, mais le cœur bat encore. Mais si à un moment, vous arrêtez l'investissement et vous arrêtez la consommation, là, excusez-moi, mais on est en état de mort clinique. Donc fondamentalement, l'année de tous les dangers, pour moi, c'est moins 2026 qui est quasiment...
Le risque reste à venir, quoi. Il est devant nous.
Pour moi, les six premiers mois de 2027, je suis extrêmement...
Et j'ajouterai, vous avez tout à fait raison, c'est que si à 2027, à ce moment-là, la théorie de l'économie est de redon, il faut la poursuivre en 2028, c'est-à-dire la sortie de la récession, ben elle n'est pas évidente du tout. Ça veut dire que 2028 est plombée. Peut-être 2029. Donc on voit comment les présidentielles françaises vont se présenter à ce moment-là.
À moins de décision politique forte, sauf le cas très improbable d'un candidat ou d'une candidate qui arriverait en prenant des mesures drastiques, rapides, avec effet rapide.
Ouais, ce qui est pas tout à fait le propre d'une économie édredon qui, par ailleurs, est financée à coût de dépenses sociales, alors qu'on a un déficit
et de dette publique
à 5%. Donc tout
et
ça
de
paraît
redistribution
compliqué.
Massive, on en parlait.
Et de redistribution massive.
Bon, est-ce qu'on n'est pas, les amis, en même temps, dans un esprit doumiche total, comme on l'est très régulièrement dans les experts, il faut bien le reconnaître. C'est souvent une question de lucidité. Parfois, on se trompe, mais y compris à cause de données statistiques erronées. L'INSEE, vendredi, a corrigé de manière spectaculaire la croissance française en 2023 et 2024. En 2023, on était jusqu'ici sur une croissance de 0,9. Eh ben non, en fait, on a fait 1,6% de croissance. En 2024, on n'a pas fait 0,3, on a fait 1,5. Enfin, c'est quand même assez spectaculaire. Oui, 0,3, c'est ça. Non, en hausse de 0,3, pardon, 1,5. Oui. On n'était pas à 0,3 en 2024 quand même. Bref, les moteurs vont mieux. La production manufacturière a été très supérieure à ce qu'on avait annoncé. D'abord, Olivier Provost, vous avez suivi la macro pendant de nombreuses années en tant que journaliste. Est-ce qu'on a déjà vu des corrections comme ça deux ans plus tard aussi importante?
Alors en France, c'est très rare. Je parle sous le contrôle de Nathalie Philippe. C'est très rare, c'est très américain. D'habitude, les Américains ont des variations qui peuvent être très spectaculaires. En France, on n'avait pas ces habitudes-là. Donc déjà, il y a une petite question qui peut se poser sur la méthodologie ou les modes de calcul. On a envie de dire, ça fait penser au déficit avec Bercy.
Mais oui,
on a l'impression
sur les prévisions d'une
espèce
aussi
de manque de maîtrise des chiffres. Derrière, se poser la question, ok, pour ces chiffres de croissance qui sont un peu du passé, ils ont profité à qui? ils ont profité à qui? Est-ce qu'ils ont profité aux grandes entreprises? Et après, il y avait le débat à un moment de est-ce qu'ils ont profité aux actionnaires à travers les dividendes?
Oui.
Et est-ce qu'ils ont profité à une logique de redistribution dont on parlait à l'instant, qui, à un moment, va être au cœur de la discussion sur la présidentielle de 2027?
Alors, ils ont peut-être aussi expliqué le fait que le marché de l'emploi c'est quand même pas si mal
bien tenu, voilà. C'est vrai.
Ça explique pourquoi c'est un résultat étonnant. D'ailleurs, on parlait de baisse de la productivité du travail parce qu'il y avait, on créait tellement d'emplois, il n'y avait pas de production. C'était un tout petit peu étonnant. En revanche, ça met en exergue le problème, la dette publique. Parce que malgré cette croissance, le déficit est gigantesque.
Lui, il a pas,
et la
il a
dette
pas
publique explose.
Non, mais c'est
alors
ça
là,
qui est incroyable.
C'est une perte de contrôle totale des finances publiques par l'État.
Bah oui. Je rappelle qu'on était à 2,4% de déficit avant le Covid, hein, en 2019. Je vais revoir les chiffres tout à l'heure. Ça m'a surpris, en fait. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu un déficit sous les 3%. Bah non, en fait. C'était en 2019 et on avait 2 points de PIB de dépenses en moins aussi juste avant la crise de la Covid, effectivement. Ma question derrière, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de noircir la copie aussi? Depuis la dissolution ratée, 2024-2025, on avait dit que ça allait être catastrophique. L'instabilité politique allait peser sur la croissance. Là, on se dit que le choc exogène... Alors, pour le coup, c'est quand même une crise de l'énergie, donc c'est beaucoup plus tangible. Mais est-ce qu'on pourrait pas avoir de bonnes surprises? On a eu quand même Choose France, 93 milliards d'annonces d'investissement. On verra ce qui se traduit concrètement. Olivier, je vous vois d'odeliner de la tête.
D'odeline, comme disait De Funès. Honnêtement, si vous voulez qu'on dise un tout petit mot sur Choose France, moi, à un moment, quand je vois Samsung qui investit massivement en France pour de l'IA, en allant acheter l'énergie française pas chère, si on devient le supermarché de l'énergie décarbonée pour les champions de la tech étrangers, qu'ils soient coréens ou américains, au bout d'un moment, je me demande si on s'est pas trompé de combat quand même. Hein.
Ah.
Bah oui, in fine, ok, on fait de l'énergie décarbonée.
Sur une station essence, finalement.
Oui. Non, mais elle va profiter à qui? Elle va profiter à qui? Si l'énergie de nos centrales nucléaires sert à alimenter l'IA de Samsung, au bout d'un moment.
Il n'y a pas un ruissellement, c'est pas de l'argent
qui
vient
sur le territoire. Quel est le modèle économique qu'on construit derrière? Quand vous voyez, je crois qu'il y avait un exemple très, très juste qui était cité. Le site, l'ex-Airbus hélicoptère, qui s'appelait avant Eurocopter, était à La Courneuve. Oui. Ils avaient un site où ils employaient plus de 300 personnes. Aujourd'hui, sur le même site, sur la même implantation géographique, vous avez un data center.
Et oui.
Nombre d'emplois, 35.
Ouais, c'est ça.
35. Mmh. Rapport de 10 à 1. C'est le symbole de la désindustrialisation qu'on a menée sur notre territoire. Donc encore une fois, quel est le modèle économique qu'on prépare derrière? Et oui, on fait de l'énergie décarbonée, et c'est super bien. Mmh. Nathalie pourrait l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais globalement, à qui elle profite?
C'est la critique qu'il y a eu après, toujours des critiques évidemment, on peut se féliciter quand même du montant des investissements, mais c'est un, où va l'argent? Si c'est pour acheter des composants qui sont fabriqués ailleurs, bon, on en profitera finalement assez peu. Et deux, l'emploi. Effectivement, des data centers, c'est pas vraiment beaucoup d'emplois, Nathalie Lançon.
Les data centers, effectivement, ils ont au niveau de la gestion des emplois, au niveau direct, ils n'en emploient pas. C'est pas ceux qui génèrent le plus d'emplois. Maintenant, ça génère une activité et ça maintient effectivement des activités qui sont liées. Mais en emploi direct, non. En emploi indirect, oui. Donc c'est toujours quand même une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Et il faut pas le négliger. D'ailleurs, c'est souvent ce qui est négligé quand on parle de l'IA. En fait, on s'aperçoit pas que finalement, il y a des emplois effectivement qui sont moins utile, mais finalement, il y a quand même des emplois. Et il y a même une étude surprenante, si je ne me trompe pas, qui est sortie là, il y a un ou deux jours, qui montre qu'il y a même eu, quand même aux États-Unis, une augmentation des emplois de développeurs.
Ah, oui. Comme quoi on a besoin encore de codeurs.
Non, mais je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de mauvais emplois. Voilà.
On change la structure de l'emploi.
On change la structure de l'emploi. Olivier pointe très justement, c'est que par derrière, y a-t-il de l'investissement? Où va l'investissement? Et les chiffres que nous avons de l'INSEE, il va falloir qu'on regarde très précisément consommation, investissement. Parce que si c'est de la consommation, honnêtement, c'est presque une catastrophe. Alors que nous avons besoin d'investissement et d'investissement lourd pour nourrir la croissance. Et donc, est-ce qu'on va avoir des bonnes surprises ou des mauvaises surprises? Est-ce que nous ne sommes pas pessimistes ou optimistes? Je vais vous dire, la probabilité d'être pessimiste, si nous avons eu d'énormes investissements, mais je ne le crains que non, parce que je n'ai pas, moi, d'informations par ailleurs qui aillent dans ce sens. Donc, nous risquons d'avoir eu beaucoup de consommation. Oui. Et dans ce cas-là, la loi de la statistique, il y a des hauts et des bas, ben, les prochaines révisions, elles seront plutôt à la baisse qu'à la hausse.
Olivier.
Philippe pointe du doigt un sujet absolument crucial dans l'optique de 2027. L'investissement, c'est du capital. Si on continue à véhiculer un discours anti-riche, anti-argent, en n'expliquant pas qu'il faut mettre, si vous voulez prendre des risques, c'est-à-dire développer votre économie,
oui,
faut mettre du capital sur la table. Ce capital doit avoir un retour sur investissement. Et donc, si on continue à stigmatiser les dividendes, à stigmatiser la rentabilité du capital, à expliquer, malgré la crise du Ralex, que les scopes, c'est formidable, et donc à essayer de véhiculer une espèce de mythe du capitaliste sans capital, c'est une catastrophe. Et donc, fondamentalement, il faut d'urgence, dans l'optique de 2027, réhabiliter la notion de capital dans ce pays, parce que sinon, comme le dit très bien Philippe, la consommation, surtout avec notre modèle redistributif, in fine, c'est une espèce de siphon qui tire l'argent vers le bas, et à la fin, on n'aura plus d'argent pour investir.
Et oui, il faut marcher sur ses deux jambes. En même temps, l'investissement manufacturier n'est pas trop mauvais, étonnamment. Après, il y a beaucoup d'investissements dans les services numériques, justement, en ce moment.
Oui, en fait, ce qui est très drôle, c'est tout le paradoxe français. C'est-à-dire qu'avec ce modèle-là où on favorise la consommation, en fait, on ouvre grand nos bras à Chine, qu'on fustige. Oui. Mais par contre, effectivement, on va les taper sur le capital risque, qui est essentiel pour la croissance. Et je voulais juste rebondir, effectivement, ce que souligne Philippe est intéressant, parce que c'était l'étude en fait de Blandol en Norvège, justement, qui indiquait que le pire, c'est ce qu'on voit pas, c'est-à-dire la désincitation dans lorsqu'on taxe fortement le capital, comme en Norvège. Donc c'était l'étude,
oui,
qui a été récemment publiée, enfin qui a été publiée l'année dernière, sur les conséquences de cette taxe sur les riches en Norvège. Eh bien, ce qu'elle a observé, ce qui est allé beaucoup plus dans la microstructure, c'est qu'en fait il y a une désincitation de la part des entrepreneurs capables de prendre des risques. En fait, du coup, ils ne les prennent plus.
Ils ont du bon sens, hein. Si vous taxez massivement, il ne faut pas s'étonner s'il y en a moins.
Ah
oui, il est mobile, le capital.
Voilà. Soit ils s'en vont pour les prendre ailleurs. Donc il y a un exil, mais qui est pas forcément fiscal, parce que il peut arriver très tôt l'exil, c'est-à-dire pendant les études. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un, au lieu de faire ses études en Norvège, il va ailleurs et c'est là où il va entreprendre. Ou alors, effectivement, plus tard, et pour la même raison, en fait, il va s'abstenir d'entreprendre. Et c'est effectivement, nous, on est sous ce danger, puisque les politiques, enfin, je veux dire, le discours politique est absolument horrible de la part aussi du gouvernement, hein, quand on entend même le ministre de l'économie parler du fait que les riches payent proportionnellement beaucoup moins d'impôts que la moyenne des Français. C'est
l'ex-ministre inaudible. De l'économie.
Voilà. Oui, l'ex-ministre, pardon.
Est-ce que je peux juste ajouter, effectivement, et ça c'est tout le risque de la taxe Sukman, c'est-à-dire la taxe Sukman et le projet de Sukman, vous prenez de l'argent, vous dites, au fond, on va mettre un impôt sur l'investissement, et c'est l'État qui va prendre cet argent et donc qui va le dépenser. Et pourquoi va-t-il le dépenser? Est-ce qu'il va le dépenser pour investir? Je ne crois pas. L'État et le ministère de l'Économie et des Finances n'a pas la structure organisationnelle pour décider d'investir. C'est absolument pas un organisme d'investissement, encore moins un fonds d'investissement.
Oui.
Conclusion, ça va partir, n'est-ce pas, dans de la redistribution, dans de la subvention à la consommation, enfin, dans de l'argent orienté vers la consommation. Et dans ce cas-là, nous voyons très bien qu'il n'y aura pas d'investissement. Et donc, que là, pour le coup, la capacité à concurrencer la Chine, néant, puisque s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de concurrence avec la Chine. Au contraire, cet argent qu'on va mettre dans la consommation, il va applaudir, il va faire venir rentrer tous les produits de la terre en France.
Ben
c'est tout à fait le contraire. Donc tout le modèle économique, il faut renverser cette façon de penser, n'est-ce pas, et mettre vraiment la priorité pour l'investissement. Et bien évidemment, comme vous le disiez, Nathalie et Olivier, ça présuppose de ne pas aller commencer prendre l'argent qui serait destiné naturellement à un investissement pris dans des conditions rationnelles de discussion, etc.
Et de
critique.
Ça pose la question de la balance des paiements. On en reviendra dans la seconde partie, dans la seconde partie de l'émission, en parlant protectionnisme aussi. Mais je voulais qu'on s'arrête aussi une minute autour de l'économie américaine qui attire les capitaux. Hein. On a 300 milliards qui partent chaque année outre-Atlantique de capitaux européens qui vont chercher du rendement, évidemment, puisque le rendement du capital est là-bas bien plus élevé que chez nous. Sauf que les derniers indicateurs inquiètent un peu du côté des États-Unis, avec une croissance revue à la baisse, une inflation qui repart et une épargne des ménages qui fond, le marché immobilier qui se grippe aussi et des taux d'intérêt qui restent assez élevés en dépit des attaques et des pressions de Donald Trump. Est-ce que les États-Unis, là, sont en train d'arriver à un point d'inflexion? Est-ce qu'ils sont en train de découvrir les limites de leur propre modèle, Olivier?
Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le dynamiteur en chef de cette situation s'appelle Donald Trump. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous aviez une vision des États-Unis avec des hauts et des bas, mais où vous pouviez avoir une certaine visibilité. Là, c'est fini, on est dans le brouillard total. Les économistes le sont, les consommateurs le sont, les investisseurs aussi en partie. Et donc, aujourd'hui, bien malin peut dire où va l'économie américaine. Vous savez qu'on vient d'entrer en driving season, oui. Le moment où les Américains prennent leur voiture pour partir en vacances. Là, ils voient le prix
avec
du galon.
Élevé, oui.
Le prix du galon à la pompe, ils font grise mine. C'est autant d'argent qu'ils ne dépenseront pas dans les centres de vacances en Oklahoma ou en Californie. Fondamentalement, oui, l'économie américaine a un sujet. Ce qui la sauve quand même aujourd'hui, c'est Wall Street. C'est-à-dire qu'on a quand même des niveaux des marchés qui reste très élevé. N'oublions jamais que notamment la rémunération des retraites se fait encore beaucoup aux États-Unis via les marchés. Tant que Wall Street ne casse pas, vous avez une corde de rappel américaine qui est liée au marché. D'où le fait qu'un certain nombre de gens commencent à prévoir un crack américain.
Eh oui.
Là, si ça arrivait, on basculerait dans l'inconnu total. Mais tant que Wall Street résiste, oui, l'économie américaine est en train de canner, elle ne s'effondre pas parce qu'elle a cette corde de rappel de Wall Street.
Oui.
Mais l'économie au quotidien, et notamment la consommation, oui, elle souffre beaucoup. On va le voir au moment des midterms, Trump a dit qu'ils sont foutés. Mais les midterms, à un moment, il va en payer le prix. Parce que l'Américain moyen, il voit ce que ça lui coûte.
Oui, l'économie américaine, elle repose sur Wall Street, donc l'IA. Parce que Wall Street aujourd'hui, c'est l'IA, et la consommation des milliardaires, grosso modo, ce qu'on appelle l'économie en K.
Oui, c'est effectivement le point que je voulais souligner. En fait, au-delà de Wall Street, en fait, le gros avantage des États-Unis par rapport à l'Europe, c'est effectivement leur capacité d'innovation. Ce qui va avec, c'est la capacité de financer cet esprit d'innover. C'est-à-dire
aussi
que nous, on a vraiment un petit problème de mode de financement de l'innovation que eux n'ont pas du tout. Donc, effectivement, ceux qui innovent, innovent pour de bon. Et il y a quand même des gains. Les gains, on les voit, ils ont eu des gains de productivité dans les services que nous n'avons pas.
Oui.
Donc, c'est ce qui explique qu'effectivement, cette économie a continué quand même à croître de façon assez satisfaisante, que finalement, l'emploi est toujours là, malgré toutes les annonces. Donc après, il y a de toute façon...
Il y a moins de turnover dans l'emploi, il reste au plein emploi.
Exactement,
quand même,
et les analyses, effectivement, commencent à être un peu sur l'IA. On a à la fois des bonnes et des...
On a beaucoup de jobs apocalypse.
Oui, mais pourtant, en fait, les chiffres, ceux qui sont effectivement pas jobs apocalypse et qui regardent dans les chiffres, disent que finalement, il n'y a pas de drame pour le moment, et que ça, c'est effectivement toujours ceux qui veulent alarmer.
Ouais.
Mais bon, globalement, leur avantage, et ça reboucle en fait sur les prix, c'est que si vous avez une productivité élevée, eh bien vous avez moins de problématiques d'inflation que dans un pays où il n'y a pas de productivité.
Évidemment.
Donc même si effectivement ils ont une inflation, des prix qui réagissent plus, ils ont une productivité qui vont en leur faveur.
Non, il est certain, vous signalez la question des prix, la question des prix est importante aux États-Unis parce que nous avons vu une économie américaine qui ne réagit pas aux hausses de tarifs douaniers, curieux.
Non.
Bon, c'était les marges des entrepreneurs, des importateurs qui ont absorbé le choc. Et tout d'un coup, alors qu'ils sont eux-mêmes producteurs de pétrole, alors qu'ils ne sont pas dépendants du détroit d'Hormuz, mais en revanche dépendants du marché international, tout au moins il n'y a pas de protection sur l'énergie, sur le marché américain, les prix explosent aux États-Unis. Nous sommes à 3,8% d'inflation sur les prix à la consommation. Et tenez-vous bien, sur les prix à la production, nous sommes quasiment à 10%. Ça veut dire, or, les prix à la production, c'est les prix à la consommation de demain.
Ah oui.
Donc, dans ce cadre-là,
ça ne va faire qu'empirer, si je me souviens.
C'est quoi l'activité et la production demain? Et l'un des grands problèmes que l'on a, et notamment avec l'IA, c'est que l'IA dépend aussi du prix de l'énergie, à cause des data centers, etc. Changer les prix de l'énergie, tout le modèle de l'IA, qui est largement spéculatif, au bon sens du terme, c'est-à-dire c'est des gens qui font des paris que ça va marcher, mais il suffit de petits changements sur le prix de l'énergie pour rendre tout votre système d'éminemment profitable à éminemment en perte. Donc là, on a un vrai sujet. Or, jusqu'à présent, Wall Street et tous les marchés sont sur un phénomène lié à l'Iran et à l'inflation de court terme. Il suffit de voir les swaps, les marchés, vous savez, qui échangent des taux futurs, etc. Bon, pour la faire simple.
Oui.
Eh bien, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit un choc d'inflation cette année, et puis l'année prochaine, plus
et
rien.
Mieux.
Terminé. Tout rentre dans l'ordre. À part que nous ne sommes pas pour le moment sur cette trajectoire. Et les derniers propos de Trump, le chaos littéralement de la gestion politique de l'Iran montrent qu'on n'y est pas et qu'on n'y est pas du tout.
2027 s'annonce absolument merveilleuse. On n'en a pas fini avec le chaos de Donald Trump, on va en parler dans la seconde partie de l'émission, avec un énième rebondissement dans l'épisode des droits de douane, des deux annonces dans la nuit. On vous en parle dans une minute. Les droits de douane pourraient être indexés sur le travail forcé, dorénavant. Mais oui, messieurs, dames, on va vous expliquer tout ça. Et puis, on viendra sur nos outils à nous, européens, de lutte contre les surcapacités chinoises. Séminaire très important qui s'est tenu en fin de semaine dernière à Bruxelles avec les commissaires européens. Oui, mais, certaines compagnies européennes, notamment du côté de l'Allemagne, sont totalement contre ces outils de défense. On va voir ce qu'il en coûtera à l'Europe. Ne quittez pas, on se retrouve dans une minute.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Il est 10h pile, nous sommes de retour pour la seconde partie de l'émission. C'est les experts. On a encore une demi-heure de débats et de controverses à partager ensemble avec Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School, Olivier Provost, directeur et associé de Rumeurs Publiques, et Philippe Trénard, professeur honoraire au CNAM, membre du Cercle des économistes. On va continuer avec l'économie américaine, avec le président américain Donald Trump, qui veut imposer de nouveaux droits de douane, oui, ça faisait longtemps, à pas moins de 60 économies. C'est le énième rebondissement dans l'épisode de la guerre commerciale. Avec deux annonces à Washington cette nuit, le gouvernement a fait appel de la décision de justice qui impose le remboursement aux entreprises des surtaxes annulées plus tôt cette année par la Cour suprême. On parle de dizaines de milliards de dollars de remboursement. Et puis ensuite, dans la quête d'un prétexte pour maintenir ces taxes, le représentant au commerce américain a dévoilé le résultat d'enquête. Et alors là, il a sorti la carte travail forcé pour faire payer ses principaux partenaires commerciaux. Alors là, il y a deux catégories, ceux qui ne font pas assez, ceux qui nous regardent, ce sont les pays en jaune, ceux qui ne font pas assez contre la lutte contre le travail forcé, cela, ce sera 10% de droits de douane, l'Europe en fait partie, et puis ceux qui instrumentalisent un peu plus ce travail-là, les pays en rouge, Amérique latine, Russie, Asie, l'Australie, eh bien c'est 12 points et demi de taxes supplémentaires. Philippe, une première réaction
Là, pour le coup, c'est assez surprenant, parce que le pays qui n'en fait pas assez parmi les pays occidentaux, puisque en orange et en jaune, nous avons essentiellement des pays occidentaux, ce sont les États-Unis. Donald Trump vient de rencontrer Xi Jinping, et que je sache, la question du travail forcé au Xinjiang chez les Ouïghours n'était pas sur la table de négociation. Or, le gros du travail forcé dans le monde, aujourd'hui, il se situe là. Donc, quand on parle de travail forcé, c'est la question de la Chine. Donc, le pays qui pose le plus de problèmes à cet égard, parce qu'il importe très clairement dans ses composantes du travail forcé chinois, ce sont les États-Unis. Voilà, donc ce n'est pas l'Europe, au contraire, les autres pays ont plutôt des législations beaucoup plus contraignantes de ce point de vue-là que les États-Unis. Alors, deuxième point, peut-être une précision, Donald Trump ne fait pas appel contre la Cour suprême, mais contre une juridiction inférieure. Il n'y a pas d'appel contre la juridiction de la Cour suprême, mais une juridiction inférieure a décidé, et elles vont le faire à peu près toutes dans les mêmes conditions, que, étant donné la décision de la Cour suprême, l'État américain doit rembourser les personnes qui ont payé des droits de douane. Et à ce moment-là, vous pouvez refaire, n'est-ce pas, une appel contre cette décision. Et c'est ce qui va être fait. Ça veut dire que jusqu'au terme du mandat de Trump, nous allons avoir, et les entreprises vont avoir une grande incertitude sur le remboursement ou non remboursement des droits de douane. Voilà, une instabilité totale qui, on parlait de la croissance américaine va quand même avoir un certain nombre de conséquences
vous pensez
sur l'activité américaine.
On pensait que ça allait plomber l'économie l'année dernière et puis finalement on se rend compte que pas tant que ça, non?
Oui, elle est ouverte.
Nathalie, puis Olivier.
En fait, elle est tout simplement, elle est quand même modérément ouverte, l'économie américaine. Il faut bien se dire que c'est, par rapport à l'Europe, elle est moins ouverte. Donc effectivement, ça perturbe. Je pense que là, les entreprises, elles ont intégré le fait qu'il n'y aura jamais de stabilité. Enfin, c'est à peu près, je pense qu'elles ont pris en compte.
On est complètement perdus avec tous ces changements.
Elles sont en train d'intégrer. Donc elles sont en train d'intégrer le fait qu'effectivement ça va changer, qu'il va y avoir des recours en permanence et que de toute façon elles reverront sans doute jamais l'argent. Elles vont faire ça.
Avant 4 ans. Avant
exactement. 3
ans.
Ce sera comme en économie souvent on le dit. Ça a un coût perdu.
Oui.
Et puis elles vont passer à autre chose. Mais c'est vrai que pour elles, les États-Unis ont pour eux le fait qu'ils sont quand même moins ouverts qu'ils commercent quand même beaucoup en leur sein.
C'est la grande dynamique mondiale maintenant. Hein. On met les grands empires sous cloche, il n'y a plus que l'Europe qui est ouverte. On en parlera un tout petit peu plus tard, mais Olivier,
deux remarques par rapport à ça. Un, je crois qu'on est tous d'accord, globalement, cette histoire de droits douane, ça ne marche pas, ni en moins, ni en plus. C'est une espèce de jeu à somme nulle, à coup d'intox. Et donc, in fine, le résultat...
Il va tirer quelques centaines de milliards de recettes quand même supplémentaires. Oui. Il a un budget,
un
déficit à
un moment, ça peut jouer sur des secteurs extrêmement ciblés. Typiquement, par exemple, parlez-en à un moment aux producteurs de vin ou aux producteurs de fromage.
Ben oui.
Dès que vous êtes sur des petits volumes à l'échelle mondiale, là, vous pouvez avoir peur. Quand vous êtes sur de l'économie très large, honnêtement, c'est l'épaisseur du trait. Mais deuxièmement, Trump, on le sait comment il fonctionne, que en rapport de force. Regardez les pays sur la carte que vous avez montrée, et notamment les pays en jaune. Les pays en rouge, c'est presque de l'esbrouf. Mais les pays en jaune, vous voyez qu'il y a le Canada et qu'il y a le Mexique, et vous voyez qu'il y a l'Europe. Oh, curieusement, c'est les pays avec lesquels il y a des négociations extrêmement tendues sur, à un moment, des accords globaux.
Oui.
Donc, en fait, Trump se resserre de cette menace pour continuer à mettre la pression sur ses partenaires commerciaux. Encore une fois, les États-Unis se montrent une fois de plus durs avec leurs alliés qu'avec leurs ennemis.
Oui.
Et donc, il remet un coup de pression sur le thème « Attention, sur les accords commerciaux, je peux avoir d'autres leviers ». C'est comme d'habitude le rapport de force sur lequel joue Trump, mais après, sur les résultats macroéconomiques, ça reste relativement marginal.
L'Europe a bien joué face à ça, Philippe, dans la négociation.
Moi, je crains que l'Europe ait... pas bien joué.
Parce qu'on vient de valider l'accord, finalement. Un an plus tard, quasiment.
Est-ce que les États-Unis de Trump sont une contrepartie avec laquelle on peut négocier? Nous avons négocié des droits de douane, nous avons un accord sur les droits de douane, nous nous sommes inclinés devant ces droits de douane américains, il n'était pas question d'en ajouter, première occasion venue, on en ajoute, je pense dans 6 mois, on en ajoutera encore, dans 1 an encore. Donc nous découvrons, comme les Américains, qu'il n'y a pas de possibilité de négociation, non point avec les États-Unis, mais avec l'administration Trump, parce que quel que soit l'engagement ou la parole de cette administration, elle ne vaut rien.
Et vous perdez à la fin.
Et on perd à la fin. Parce qu'à la fin, on a donné quelque chose, mais c'est comme si on n'avait rien donné, donc rebelote la fois suivante.
L'accord a été renégocié, là, c'est passé assez sous les radars, mais avec deux clauses intéressantes. La première, c'est qu'à la fin du mandat de Donald Trump, cet accord tombe.
Oui.
Donc c'est retour à la normale. Et secondo, si Donald Trump change une virgule dans ses droits de douane, et il vient de le faire, une semaine après... L'accord est censé tomber aussi. Je ne suis pas sûr que le président américain ait saisi la nuance du texte adopté par les Européens,
alors,
mais a priori,
vous avez
vient de décider.
Vous avez raison, c'est important ce
l'accord
point.
L'accord US-UE ne veut plus.
Oui. Je ne sais pas si... Mais comme nous n'avons pas de juridiction pour décider, puisqu'il n'y a plus d'ordre international et que Donald Trump n'acceptera pas d'arbitrage, je ne sais pas très bien ce que ça va devenir, mais il est clair qu'il n'y a pas d'accord possible et que les accords existants, je ne sais pas ce qu'ils valent.
Derrière, ça pose quand même à un moment la question du modèle européen qu'on veut à un moment défendre. Parce que ces accords commerciaux partent à un moment du principe qu'on est une Europe qui produit et qui exporte.
Oui.
Sauf que
parce qu'il y a le cas, on a une balance commerciale excédentaire de 360
milliards. Sauf que toute l'Europe, toute la jurisprudence européenne a été bâtie sur une Europe des consommateurs. C'est-à-dire que fondamentalement, on a bâti un modèle on est un vaste marché de consommation, et donc vous, produits chinois, rentrez, le consommateur européen va y gagner, puisque je vais avoir des produits de qualité moins chers, et dans le même temps, on est en train de se battre à travers ces accords sur une Europe qui serait encore productive et qui exporterait.
Oui.
Et fondamentalement, le paradoxe de quelle Europe on défend, il est posé dans ce sujet-là. Et je trouve que, vu de Bruxelles, vu de Berlin ou vu de Paris, il y a des visions que je trouve pas totalement coordonnées en la matière.
Alors on va y venir justement, parce que la semaine dernière, vendredi dernier, un séminaire s'est tenu à la Commission européenne et les commissaires ont été mandatés en vue du prochain Conseil des chefs d'État et de gouvernement fin juin, qui sera consacré à ces questions de tensions commerciales, notamment avec la Chine. Les commissaires ont été mandatés pour une nouvelle boîte à outils. On adore ça à Bruxelles, les boîtes à outils, pour être plus agile et peut-être un peu plus véloce dans la réaction apportée aux pratiques anti-dumping de la Chine. Parce que, quand même, les États-Unis se sont mis sous cloche des produits chinois. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que tout cela a été dérouté vers l'Europe. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les chefs d'État vont se saisir de ces outils comme rétorsion commerciale à la Chine. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même un pays qui bloque, c'est l'Allemagne. Et qu'au sein de l'Allemagne, en réalité, c'est des grandes compagnies qui bloquent, et notamment les fabricants automobiles, Volkswagen, BMW et Mercedes en tête. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous flinguer l'économie européenne ? La question est un peu brutale, mais je trouve qu'on ne la pose pas assez en France sous ces termes-là. Olivier Provost.
Alors, je suis un peu le sujet de près pour regarder ce qui se passe en Allemagne. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Il y a une bataille intérieure en Allemagne en ce moment. Il y a une bataille intérieure, oui. Il y a deux forces en opposition entre ceux qui se rendent compte que tout ce qu'a fait l'Allemagne depuis 10 ans, qui était de dire « je défends mon économie exportatrice » et pour ça, fondamentalement, je donne des gages à la Chine pour un donnant-donnant. Et du coup, on s'est opposé aux mesures sur le photovoltaïque pour le taxer. On s'est opposé à un certain nombre de choses. Et donc, in fine, le maillon faible d'une Europe protectionniste était en Allemagne. Et globalement, où un certain nombre de voix en Allemagne disent « on a eu tort, on s'est trompé, ça fait 10 ans, voire 20 ans qu'on s'est trompé, faut faire machine arrière et faut imposer. »
Et ça, on les entend vraiment en Allemagne ?
Alors, il y a un débat, notamment politique, et qui commence à se faire entendre au niveau de la Commission européenne, même auprès d'Ursula von der Leyen. Et il y a effectivement des industriels qui disent encore quelques minutes, monsieur le bourreau, qui globalement produisent encore, qui exportent encore un peu vers la Chine, et qui disent, attendez les gars, moi j'ai quand même des voitures à vendre. Mais le débat est très très fort en Allemagne, ça va être intéressant de voir de quel côté retombe la pièce, comme dans Match Point. Et fondamentalement, le débat intérieur en Allemagne, il est extrêmement vif là-dessus.
Nathalie.
Alors moi, je vais être très provocatrice et désagréable. Je pense qu'en fait, c'est inutile. Enfin, maintenant que la Chine est de toute façon commerce avec nous, je pense que c'est complètement illusoire de vouloir empêcher. Il vaut mieux une Chine de toute façon qui soit là et qui exporte et qui produise qu'une Chine qui aille mal. Et je pense qu'il faut partir du principe que leur avantage comparatif, c'est la subvention. Donc, on part de ce principe-là.
J'ai entendu ce chiffre, on m'a donné de sources européennes ce chiffre. Un quart des entreprises chinoises qui sont présentes en Europe vendent à perte. Mais oui, mais est-ce que c'est pas faire rentrer le loup dans la bergerie et détruire complètement, menacer par exemple l'industrie automobile? On produit aujourd'hui 14 millions d'automobiles européennes, Europe au sens large. Les projections à 2030-2035, c'est qu'on tombe à 8 à 9 millions seulement. Avec non plus 70% de pièces européenne, mais moins de 50%. Est-ce que on ne risque pas de tuer l'économie européenne en faisant ça, Nathalie puis Philippe?
Oui, alors non, le commerce international n'a jamais tué les économies. Et par contre, oui, c'est un fait qu'il faut s'adapter. Étant donné que maintenant la Chine et s'est embarquée sur l'automobile, il est certain que soit l'industrie automobile s'adapte en Europe dans la mesure où elle peut s'adapter. Et c'est vrai que là, par exemple en France, on a quand même quelques petits soucis en matière de coût du travail et de réglementation qui sont effectivement pas faciles. Si vous voulez, effectivement, face à un rouleau compresseur comme ça, vouloir aller sur le même terrain, c'est pas possible. Donc il faut aller sur un autre terrain. Donc si c'est pas la voiture électrique telle que la Chine la fabrique, il faut trouver effectivement des alternatives. Le problème, c'est qu'effectivement, comme on est dans des économies, en tout cas en Europe, on réglemente beaucoup, en France encore plus, eh bien la capacité d'aller faire autre chose est moindre. Donc c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vraiment on veut une Chine qui aille moins bien ? Non. Par contre, on sait que la Chine, elle est rentrée comme ça dans le commerce mondial. Donc à ce moment-là, il ne fallait pas la faire rentrer en 2001, parce que faire rentrer de toute façon un pays communiste qui subventionne, on s'attendait à quoi ? Ce qui joue avec les lois du marché ? Non. Donc maintenant qu'il est là, effectivement...
Oui, l'OCDE vient de pondre un rapport sur sur les aides il y a 24 heures. Aux surprises, ils subventionnent 6 à 7 fois plus que nous, Européens.
Exactement, c'est un pays qui continue. C'est un pays étrange, effectivement, puisqu'il est à la fois, il y a de l'économie privée, entre guillemets, de la concurrence dans les secteurs pour effectivement, parce qu'ils ont compris que ce n'est pas le planificateur qui sait identifier celui qui gagne.
C'est très mathusien, effectivement, on en lance 100.
Mais par contre, c'est toujours lui qui donne les grandes voix. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Soit il fallait les laisser à la porte, mais maintenant qu'ils sont là, il faut juste faire en sorte que nous, on puisse effectivement...
Les États-Unis ont fait un autre choix. Ils ont verrouillé 100% de droits de douane sur l'automobile.
À nouveau, ils ont d'autres secteurs. Ils sont sur l'IA. Enfin, je pense que eux, le sujet... L'automobile, c'est fini aux États-Unis depuis qu'il y a eu les Japonais. Ils ont appris. Ils font autrement. Et l'automobile existe toujours, mais dans d'autres secteurs. Ils ne font pas des voitures, mais ils aident aux composants. Enfin, il y a d'autres façons de créer. En fait, en Europe, on veut persister sur ça.
La vieille industrie, c'est ce que vous dites.
Il faut juste adapter son modèle.
Philippe Trenard. Non, mais je partage ce point de vue. Tout d'abord, aux États-Unis, il y a des endroits verrouillés et d'autres pas verrouillés.
Ouais,
soyons prêts.
Complètement.
La particularité de Trump, c'est d'ailleurs d'être contre toute attente, de vouloir protéger les industries en déclin et de vouloir taxer ceux qui ne sont pas en déclin. Par rapport à la Chine, le sujet est quand même complexe. Nous ne parlons pas... C'est comme par rapport aux États-Unis. Nous avons un sujet extrêmement complexe. Nous avons d'abord un sujet politique. Dès lors que les États-Unis deviennent un partenaire moins crédible, pouvons-nous nous permettre d'avoir des relations complètement hostiles avec la Chine? C'est un vrai sujet. Où est-ce que nous devons jouer, pardonnez-moi, le renversement des alliances? À ce stade, je ne sais pas ce qu'il faut conseiller, mais avant de me précipiter dans la porte ouverte, je dirais, attention, nous avons réellement à penser le monde. Et donc à penser, est-ce que nous voulons un monde purement moral, ou est-ce que nous voulons un monde aussi réaliste? C'est où il y a des puissances, il y en a qui nous sont moins favorables, il y en a qui pensent comme nous, il y en a qui n'en pensent pas comme nous. Question politique. Donc là, je vois un vrai sujet de ma part pour rentrer comme ça rapidement sur des droits de douane. Deuxièmement, les droits de douane, ça sert à quoi? Si vous êtes sur un produit que vous ne savez pas bien produire, ou vous êtes définitivement, vous n'avez aucun avantage comparatif, mettre des droits de douane, c'est simplement vous tirer une balle dans le pied à vous. N'est-ce pas? Et c'est notamment
pour le consommateur.
Par exemple, les piles chinoises, je suis désolé, les piles françaises ne concurrenceront pas avant plusieurs dizaines d'années, et peut-être jamais, les piles chinoises. C'est pas la peine.
Les batteries,
batteries chinoises. Importons les batteries chinoises, et si possible, au plus bas prix. Si les Chinois veulent nous les subventionner, merci, messieurs les Chinois, subventionnez que le consommateur chinois
on y gagne
paye nos batteries.
Exactement.
Nous y gagnons.
Oui, sauf qu'on a une industrie automobile qui existe avec 13 millions de salariés, qui produit 15 millions de voitures.
L'industrie automobile, c'est une industrie classique. Quelque part, c'est pas là ce qui va nous porter dans l'avenir, nous faire retrouver les meilleurs moyens de l'intelligence artificielle. Et c'est là le deuxième
point. Donc on abandonne, on est d'accord autour de la table.
Il faut dire aux constructeurs européens, faites un effort. Et la voiture, on veut développer la voiture électrique. Or la voiture électrique sans des batteries chinoises, je ne sais pas ce que ça vaut.
La prochaine 208 sortira d'abord avec...
J'ai une voiture électrique européenne, honnêtement. Alors, dernier point, c'est quoi les secteurs que l'on peut défendre? C'est ce qu'on appelle, c'était la vieille thèse, vous savez, des industries en enfance, c'est les industries de l'avenir. Là, il faut effectivement que les protégions. Là, il faut investir massivement, et l'investissement massif dépend de la protection, et c'est là qu'il faut s'interroger. Or, aujourd'hui, la question des droits de douane, elle ne porte pas sur la détection des industries en enfance, où il faudrait se protéger et contre les États-Unis et contre la Chine.
Oui, il y a un texte qui arrive, d'ailleurs, contre le numérique et la tech.
Pour ma part, c'est là qu'il faut enfoncer le coin.
Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie, Olivier Provost? On continue avec l'automobile sur je mets sous cloche, je vous empêche de vendre chez moi et j'abandonne mon industrie automobile, qui est peut-être celle du partenariat, ce qu'on a vu avec Stellantis,
Ouais, mais c'est un piège absolu parce que les Chinois sont très malins. Les Chinois se sont dit, l'Europe, c'est une démocratie. Qu'est-ce qui compte dans une démocratie à un moment pour l'électeur? C'est l'emploi. Donc, le maillon faible, c'est l'emploi. Donc, à un moment, je fais un accord avec Stellantis sur l'usine de Rennes. Donc, Feng arrive. Et pas de problème, je vous garantis l'emploi. Donc, je mets de la production chinoise
C'est le grand sujet, oui, l'investissement chinois en Europe a augmenté de 67%
donc je vous sauve l'emploi à court terme, mais à moyen terme, qu'est-ce qui va se passer à moyen terme ? Une fois que cet emploi sera dépendant à un moment de la production de Dongfeng, qui nous dit à un moment que Dongfeng va garder son investissement à Rennes ? Personne ne le dit. Et d'ailleurs, regardez la réaction extrêmement mal à l'aise des syndicats à Rennes, y compris de la CGT, disant, bah, nous, à court terme, on veut bien sauver l'emploi, mais c'est quoi les garanties ? Les garanties, quand vous discutez avec la famille Peugeot, à un moment, vous pouvez obtenir des choses sur la table. Vous discutez avec Dongfeng, la CGT discutant avec Dongfeng. Et à la fin, les garanties posées par Dongfeng, elles sont où ? Elles sont où ? Donc il y a ce piège à un moment de « je garantis l'emploi ».
Non, mais les communistes progressent, ils peuvent s'entendre au niveau international.
Il y a du communisme à plusieurs vitesses. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'autre piège absolu, c'est « je te sauve ton emploi à court terme ». Mais fondamentalement, une fois que tu m'as laissé entrer, derrière, bien malin qui peut dire quel sera le paysage à 50 ans. Et nous, à un moment, pour sauver notre emploi, c'est-à-dire à un moment nos électeurs, in fine, on laisse rentrer le loup dans la bergerie.
Est-ce que c'est pas ce qu'on disait des constructeurs japonais dans les années 90 ? Aujourd'hui, le premier producteur automobile en France s'appelle Toyota, avec 284 000 précisément voitures produites l'année dernière à Valenciennes.
Eh bien, ouais, Raphaël, vous m'avez pris effectivement ma remarque. J'étais en train de dire que ça ressemble beaucoup à Toyota qui est arrivé aux États-Unis à l'époque. Et j'imagine que quand on les a vus débarquer, on a dit la même chose. Donc, effectivement, non, c'est pas, il n'y a pas d'évidence sur le fait que les Chinois seraient nécessairement. Eux aussi, ils ont quand même des enjeux. Faut pas l'oublier. Ils ont leur modèle économique ne va pas si bien que ça.
Ah bah il va même très mal, en termes de consommation intérieure et de politique intérieure et de démographie.
Il faut aussi qu'il s'assure que leur relation se maintienne quand même dans le temps avec l'extérieur.
Non, écoutez, moi j'ai un petit problème dans ce débat. Je redécouvre un débat que j'ai connu dans les années 80
et 90. C'était avec les Japonais.
Où on me disait, les Japonais et les Coréens vont bientôt subventionner la consommation mondiale d'automobiles. Bien évidemment, quand vous faisiez le calcul entre le PIB coréen et la consommation d'automobiles dans le monde, vous aperceviez qu'il y avait une inadéquation totale. Quelque part, il y avait un problème dans l'industrie automobile française. C'était là qu'était le problème. Donc, c'est pour ça que je dis, attention, commençons par faire notre autocritique. Mettre des droits de douane sans autocritique, c'est tout simplement perdu d'avance. Alors, le deuxième point, quel est le problème fondamental de l'Europe et de la France ? Il est où ? D'ailleurs, les Chinoises le disent à l'envi. Il est dans la question du travail. Du coût du travail et de la durée du travail. Nous avons un vrai problème, c'est-à-dire l'Europe travaille peu et la protection ne sera jamais qu'une protection du sous-développement de l'Europe. C'est tout. C'est-à-dire que l'Europe peut continuer à vivre et à se sous-développer grâce à une protection, alors que sans protection, elle ne pourra pas. Donc là, on a un vrai sujet, et je crois qu'il faut reposer la question du travail, n'est-ce pas, de la rémunération du travail, de la protection sociale, de l'ampleur de la protection sociale. Je ne dis pas qu'il faut s'inspirer de la Chine, je crois qu'il y a des vrais problèmes en Chine, y compris des problèmes humains, mais néanmoins, honnêtement, la règle des 35 heures reste un problème de fond, qui, chaque jour, nous coûte un peu plus cher.
Je rappelle que c'est parfaitement illégal en Chine, mais la moyenne, le temps de travail hebdomadaire est de 70 heures là-bas. Olivier Provost.
Il faut quand même être prudent quand on analyse secteur par secteur. Parce qu'on parle de la Corée, et on se dit, l'industrie automobile coréenne n'a pas dominé le monde. Il y en a une, l'industrie coréenne, qui, elle, a dominé le monde. C'est l'industrie, à un moment, de construction des bateaux, notamment des tankers. Et à l'époque, il faut se souvenir que les Chaebol coréens, qui étaient ces consortiums, in fine, ils ont cassé les prix, ils ont tué tous les constructeurs navaux à travers le monde, et aujourd'hui, ils sont ultra dominants. Je me demande sur l'industrie automobile, parce qu'on voit la voiture dans son ensemble. Mais le jour où les Chinois vont dominer l'industrie de la batterie, il n'y aura plus, à un moment, un constructeur automobile qui ne sera pas dépendant de ça. Et ce jour-là, ils pourront imposer leurs prix et leurs conditions comme ils voudront. Donc, regardons quand même de près, secteur par secteur. À un moment, en voyant une voiture, ils pourront continuer à produire des voitures en Europe, mais si 80% de la valeur de la voiture est produite par des batteries qui, elles, sont produites en Chine, on aura un petit
souci. Est-ce que je peux juste réagir aussi ponctuellement à ce que vous avez dit ? Vous avez raison sur les navires, mais regardons, les méthaniers sont des navires hyper sophistiqués, et honnêtement, l'industrie maritime de construction maritime française des années 80-90 serait pas capable de construire des méthaniers aujourd'hui. Donc, si nous devions construire des méthaniers, c'est sur des bases tout à fait nouvelles. Nous pourrions très bien le faire Or, nous ne le faisons pas. Et la Corée ne subventionne plus sa construction maritime. C'est que là, nous avons un vrai problème qui est lié tant au coût du travail qu'à la spécialisation, à l'éducation et à la formation du travail, au capital et à l'insuffisance d'ingénieurs de base.
D'où viendrait le capital ? C'est un super beau projet, mais si vous n'avez pas le capital à mettre sur la table...
Un peu possiblement, Nathalie.
Non, je voulais juste rebondir, et puis il ne faut pas oublier que l'industrie automobile aussi devient une industrie très digitalisée.
Oui, de la tech, très clairement, c'est du logiciel maintenant, les voitures.
Il y aura peut-être les batteries, mais peut-être qu'on pourra aller beaucoup plus sur les logiciels. Enfin, il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait faire, et il ne faut pas oublier aussi l'émergence de la voiture autonome. Donc, c'est un secteur qui a encore beaucoup d'avenir, ou d'avenir au pluriel, je pense. On n'est pas à la fin des développements possibles. Par contre, effectivement, comme il a été justement remarqué par Philippe Trénard, en fait, notre problème, en évoquant le coût du travail, c'est à nouveau qu'en fait, on a une capacité d'adaptation qui est faible. Donc, en fait, notre problème, c'est qu'en fait, on a, face à des gros, grands changements de ce genre, en fait, notre capacité d'adaptation, elle est contrainte par ce carcan qui est le nôtre aujourd'hui.
Il faut ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, Olivier Provost.
Alors, il y a une petite voie de sortie quand même, parce que je crois au génie français. Je ne voudrais pas qu'on soit complètement gloomy ce matin.
Non,
l'optimisme de la volonté.
Quand je regarde, par exemple, ce que fait justement Mistral, où vous aviez ce matin en plateau une représentante de la quantique assez formidable, la voie française, qui est une voie étroite, c'est la voie du B2B. Oui. C'est-à-dire que le B2C, la bataille est perdue. La bataille est perdue sur le B2C. Encore une fois, on a fait une Europe des consommateurs. L'argent ne vient plus là. En revanche, sur le B2B, on a la chance d'avoir encore en Europe, et notamment en France, des entreprises formidables, que ce soit un Total, que ce soit nos banques, que ce soit, qui sont des boîtes solides, qui sont des boîtes mondiales, qui ont de l'argent et qui ont besoin à un moment de cette intelligence développée par nos champions français. Et en fait, le calcul que fait Arthur Mensch, par exemple, qui est de dire, moi je vais pas dans le B2C, j'y perdrai ma chemise, in fine, la bataille est perdue, et rien ne dit d'ailleurs que les grands Américains vont gagner cette bataille-là, parce que les besoins en énergie dépassent largement levées de fonds astronomiques qu'ils font quand même.
La frugalité de Mistral est un avantage compétitif.
En revanche, le B2B, c'est une bonne voie. Et de dire, moi, je conclue des accords avec les grandes boîtes françaises pour un moment leur apporter des solutions B2B en IA, celle-là, elle est intéressante, parce qu'en fait, puisqu'on n'a pas beaucoup d'argent, je rebondis sur ce que disait Philippe sur le manque de capital, on n'a pas beaucoup d'argent en France et en Europe. Allons chercher l'argent là où il est. Or, il est dans le B2B, y compris gagné au niveau international. Il est dans le B2B, il faut aller le chercher là. Le petit génie français pourrait être là, cette sortie par le haut, en se spécialisant sur le B2B.
Et en protégeant, en protégeant, entre guillemets, l'investissement, c'est-à-dire en le voyant, parce que c'est lié à de l'investissement, vous avez tout à fait raison, et c'est là qu'il faut investir, et c'est là d'ailleurs qu'on peut gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
Si on est
c'est là que l'argent, et c'est là qu'elle
si on apporte vraiment des solutions.
Tout à fait. Nathalie, votre
avis. Oh non, mais je ne doute pas un instant, effectivement, des capacités ingénieuses des industriels, enfin des Français en tout cas, et des entrepreneurs. Simplement, effectivement, on regrette qu'il y en ait pas plus, quoi. C'est surtout ça.
Mais ça présuppose quelque part que le règne du.
On n'a jamais créé autant d'entreprises, quand même, en France. Alors les défaillances sont à un niveau très élevé, mais on a quand même beaucoup créé.
Et on regrette une deuxième chose, c'est que quand Arthur Mensch se fait auditionner à l'Assemblée nationale, il y a deux députés dans la salle. C'est-à-dire que le point, le maillon faible de tout ça. S'il n'est pas dans l'industriel, il n'est pas dans l'investisseur, il est un peu dans le politique. Oui. Et l'absence à un moment de maturité politique sur ces sujets-là, c'est-à-dire que vous dites à un politique, la sortie par le haut, c'est l'investissement de la tech française dans le B2B, vous leur parlez, mais vous leur parlez chinois, sans mauvais jeu de mots, par rapport à nos débats précédents.
Vous avez vu la réaction de Cyrielle Chatelain, la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, suite à l'audition d'Arthur Mensch.
Non. Qu'est-ce qu'elle a dit ?
Qui a dénoncé le fait qu'il utilise le mot « trillion ». Qui était une sorte
c'est un mot emprunté.
Pas un mot emprunté, c'est que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un trillion et que donc on parle un langage qui
n'est pas
en dehors de l'entendement des mortels, que c'était presque une violence sociale de parler de
trillion.
C'est là que le combat politique se joue.
Si le consommateur est roi, c'est vrai que le terme de trillion n'est pas tout à fait adapté.
Oui, mais enfin, ça donne le niveau quand même du débat politique.
Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, encore une fois, je parlais du génie français. L'endroit où je sens un peu moins le génie français, malheureusement,
c'est en politique.
Il est un peu dans notre sphère politique. Ça commence dans l'optique de 2027 à être un peu inquiétant.
Alors même que la grande tradition française des ingénieurs français, c'était justement d'investir et d'investir d'abord dans le B2B. Oui, hein, ça sûr. A été une tradition et qui a fait la force de la France.
Tout à fait.
Bon, on aura un bon stress test pour la campagne présidentielle. Merci à tous les trois, Nathalie Janson, Olivier Provost, Philippe Trénard, pour cette émission passionnante. Disponible en podcast et en replay sur l'application BFM Business. Tout de suite, c'est BFM Entreprise, outils RH, animé par Sandra Gandoin. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.